Bonsoir. Abdelaziz Bouteflika, Limoges, son directeur de campagne. Première réponse aux manifestations hostiles à sa cinquième candidature à la tête de l'État algérien. La date limite de dépôt est fixée à demain. Le camp présidentiel a enregistré plusieurs défections de poids. Point complet sur la situation en Algérie dès le début de ce journal. Les derniers feux du califat autoproclamé de l'État islamique en Syrie. Les combats font rage à Baghouz, dernier réduit des djihadistes. Notre envoyé spécial sur place a pu suivre le début des opérations. La mobilisation des Gilets jaunes en net recul, deux fois moins de manifestants aujourd'hui que la semaine dernière, mais encore des incidents, notamment à Nantes et à Toulouse. Dans ce journal également, le 100e titre de Roger Federer, vainqueur cet après-midi du tournoi de Dubaï, la victoire à l'arraché du PSG 2-1 à Caen et la vie connectée, un partenariat original ce soir entre Wikipédia et les Archives nationales.
France Inter.
C'est la première conséquence des manifestations d'hier en Algérie. Abdelaziz Bouteflika, Limoges et remplace son directeur de campagne alors que la date limite pour le dépôt des candidatures à la présidentielle est fixée à demain. Deux partis d'opposition annoncent par ailleurs leur intention de boycotter le scrutin. Le pouvoir perd quant à lui plusieurs soutiens de poids. À Alger, les dernières informations de Leïla Berato.
Le coup est parti du FCE, le principal patronat algérien, dirigé par Ali Haddad, patron d'une entreprise de travaux publics très proche du frère du président, Saïd Bouteflika. Il y a quelques semaines, le FCE avait publiquement annoncé son plein soutien à un cinquième mandat, mais ce samedi, deux poids lourds de cette organisation ont annoncé qu'ils se retiraient. Laïd Ben Amor, le numéro 2, patron d'une entreprise d'agroalimentaire, et Hassan Khalifati, patron d'une compagnie d'assurance, qui a participé aux manifestations d'hier, selon la presse. Alors que de nouvelles manifestations ont eu lieu dans la région de Béjaïa et que l'homme décédé hier lors de la manifestation dans la capitale a été inhumé cet après-midi, les autorités ont annoncé ce soir que l'ancien ministre Abdelmalek Sellal était limogé de la direction de campagne d'Abdelaziz Bouteflika et qu'il était remplacé par un autre ministre, Abdelrani Zalan. Une manière de dire que la campagne sera bel et bien maintenue. À Alger, Leïla Berato, RFI pour France Inter.
Des changements d'organigramme, mais un silence total du pouvoir algérien face aux manifestations. Un silence qui intrigue, mais qui est consubstantiel au régime, selon ce politologue Naouf El Brahimi El Mili, enseignant à Sciences Po et auteur d'un livre « France-Algérie, 50 ans d'histoire secrète ».
Le système algérien, c'est comme la sèche. Elle jette de l'encre pour se défendre. Il lui faut de l'opacité. C'est cette opacité-là qui fait dire « on ne sait pas qui gouverne ». Je suis convaincu qu'il va se présenter. Je suis convaincu qu'il sera réélu avec un score plus qu'honorable. Ensuite, et ça sera la sortie la plus honorable parce que je reste optimiste, il y aura un vice-président, le profil le plus consensuel possible. Et ce vice-président va gérer la transition. Ils vont trouver un jeune de 60-65 ans. Et j'imagine un vice-président compétent, il y en a beaucoup sur les étagères, va réfléchir à un projet de société pour les jeunes. Quand on voit la rue, aussi bien la rue d'Alger que les réseaux sociaux qui jouent un rôle important, ils parlent de la corruption. Et une gestion intelligente de la corruption peut constituer un socle de légitimité. Et là, il y aura une adhésion populaire.
Naouf El Brahimi El Mili avec Valérie Crova. La mobilisation en Algérie face à la cinquième candidature d'Abdelaziz Bouteflika. Dossier complet à retrouver sur franceinter.fr avec notamment l'interview de l'historien spécialiste du pays, Benjamin Stora, qui était notre invité dans le journal de 13h. L'assaut final est lancé contre l'État islamique en Syrie. D'intenses combats font rage pour déloger les djihadistes de leur dernier fief, Baghouz, une enclave de moins d'un kilomètre carré sur les bords de l'Euphrate à quelques kilomètres de la frontière irakienne. Bonsoir Mathieu Mandoloni.
Bonsoir.
Vous rentrez tout juste de Baghouz. Est-ce qu'on est en train d'assister là-bas à la fin du califat autoproclamé de l'État islamique ?
Alors c'est en tout cas effectivement ce que disent les forces démocratiques syriennes hein, qui sont à l'œuvre, qui sont sur le terrain en ce moment en train d'attaquer cette dernière enclave du califat de l'État islamique. Les opérations ont démarré hier vers 18h heure locale, 16h heure de Paris, après l'évacuation des derniers civils. Hein, cette localité de Baghouz, en fait, elle est tenue. C'est un petit quartier qui est encore tenu par les forces du califat de l'État islamique, par les djihadistes. Un petit quartier, un petit réduit de 700 mètres carrés environ, mais qui est très difficile difficile d'accès. C'est pour ça que l'opération prend beaucoup de temps. L'assaut final, vous le disiez, a été lancé. Mais cette opération pourrait durer une semaine, voire deux semaines, disait le porte-parole des forces démocratiques syriennes encore ce matin. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de tunnels qui sont aux mains des djihadistes et ces tunnels sont eux-mêmes encerclés de véritables champs de mines. Donc les progressions sont très très compliquées pour les forces démocratiques syriennes. Et puis les derniers djihadistes qui restent là-bas, ils sont estimés à quelques centaines, peut-être plus d'un millier. Ce sont les plus extrêmes, les plus extrémistes. Ils ne veulent rien lâcher. Ils ont refusé de se rendre malgré la mise en place d'un corridor humanitaire depuis maintenant deux semaines. Donc c'est effectivement la fin territoriale de Daesh qui est en train de se dérouler en ce moment à Baghouz. Mais ce n'est peut-être pas la fin, évidemment, du califat de l'État islamique, de l'idéologie du califat de l'État islamique.
Il n'y a donc plus aucun civil sur place. Tout le monde a été évacué pour cet assaut final.
C'est en tout cas ce qu'annoncent les forces démocratiques syriennes. Elles avaient promis d'attendre l'évacuation des derniers civils avant de reprendre les opérations. Elles ont repris, je vous le disais hier, avec des frappes aériennes par la coalition anti-djihadiste, notamment l'armée américaine et l'armée française. Et puis il y a ce travail au sol. Tous les civils auraient donc été évacués. Ça s'est passé ces 15 derniers jours, notamment avec plus de 10 000 civils qui ont pu emprunter ce corridor humanitaire. C'est 55 000 au total depuis le mois de décembre. Les forces démocratiques syriennes étaient très surprises du nombre de civils qu'il y avait dans cette localité. Ils sont immédiatement pris en charge un peu plus au nord de Baghouz, dans ce corridor humanitaire, fouillés évidemment, scannés même pour éviter qu'ils aient en leur possession des explosifs parce qu'il y a des combattants qui se sont rendus et les civils sont conduits dans les grands camps qui se situent au nord, un peu plus au nord de la Syrie, le camp de Al-Hol et le camp de Al-Roj, où ils sont pour l'instant détenus là-bas. Les djihadistes sont conduits immédiatement dans des centres de détention, deux camps où les conditions de vie sont très difficiles. Les enfants qui sortent, les civils qui sortent sont pour beaucoup blessés. Ils souffrent de malnutrition, parfois déshydratés. Et ils sont, rien qu'au camp de Al-Hol, ils sont 50 000 pour l'instant, basés dans ce camp, dans des conditions, je vous le disais, très difficiles.
Mathieu, vous parliez tout à l'heure de fin territoriale de Daesh. On ne peut pas encore parler de fin pure et simple ?
Non, on ne peut pas parler de fin pure et simple parce que ce que craint beaucoup la coalition anti-djihadiste, ce sont des cellules dormantes de l'État islamique qui seraient réparties sur ce territoire. En partant de Baghouz, quand on remonte vers le nord en direction d'Assaké, il y a environ un tronçon d'une heure et demie, un peu plus de 100 kilomètres, un tronçon qui n'est pas complètement sécurisé malgré la présence de très nombreux checkpoints. Il y aurait des cellules dormantes de l'État islamique prêtes, disent les forces démocratiques syriennes, à commettre des attentats si l'ordre leur en était donné. Et puis il y a aussi l'idéologie de Daesh qui est toujours très présente dans certains villages de la Syrie. On a traversé, nous, de nombreux villages où on voit effectivement que cette idéologie est toujours très présente, très discrète. Et l'exemple, ce sont les esclaves, par exemple, yézidis que nous avons rencontrés, dont certaines ont souffert pendant deux ans, ont été torturées, parfois violées. Et l'une que l'on a pu rencontrer dans un camp, pourtant, souhaite absolument retrouver son mari. Elle dit que la vie était bien et saine sous le califat de l'État islamique. Ça vous montre à quel point, effectivement, cette idéologie est toujours présente aujourd'hui.
Mathieu Mandoloni, merci. J'ajoute que d'après un décompte de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 53 000 personnes ont fui la région depuis décembre dernier. 5 000 djihadistes ont été arrêtés sur place.
Le journal de 19h sur France Inter.
4500 habitants dans la Drôme, une commune encore sous le choc deux semaines après la mort in utero d'un bébé. En cause, selon les parents et le collectif de défense de l'hôpital de Die, la fermeture de la maternité de proximité qui remonte à l'année dernière. Une fermeture dénoncée dans la rue aujourd'hui lors d'une marche blanche. Beaucoup de colère et de tristesse sur place, Tommy Cataneo.
Oui, à commencer par Fabrice, le papa en deuil.
Moi, je suis convaincu que s'il y avait une maternité, on nous aurait pris en urgence. Sans la maternité de Die, nous avions les 100% de chances de perdre notre enfant.
Oui, la grossesse était à risque, mais lui et sa femme ont attendu 3 heures l'hélicoptère chargé de les emmener à l'hôpital de Montélimar. Pour Blandine, une maman de 10, ce drame est la preuve qu'un centre périnatal ne peut pas remplacer la maternité fermée.
On se disait, il faudrait peut-être un accident pour que ça fasse réagir, mais on espère que ça n'arrive jamais. Malheureusement, c'est arrivé.
Et malheureusement, ça peut arriver encore, ajoute Eric Vanoni, le maire de Châtillon-Audiois. C'est là qu'habitent les parents du bébé décédé.
Nous, en tant qu'élus, on a fait confiance à l'ARS, et voilà, mais aujourd'hui, on est au pied du mur.
Dans le cortège aussi, Kevin, il habite Die et c'est le papa de Lou, une petite fille née sur le bord de la route entre Saillon et Cré le 13 février. Pas le temps d'arriver à l'hôpital.
Faut que tout ça cesse, quoi, qu'on nous rende notre maternité.
Aujourd'hui, des mamans du Diwa se posent la question, faut-il faire un autre enfant? Pour Tania, Sonia, la réponse est claire.
Je ne fais pas d'autres enfants sans maternité, a dit quoi, ça c'est clair et net. Moi je ne prends pas le risque de détruire ma famille. Enfin non, quoi, c'est juste complètement fou.
L'agence régionale de santé a ouvert une enquête après la mort du petit aimé, Fabrice. Le papa a déjà dit qu'il porterait plainte, en espérant, dit-il, qu'un tel drame n'arrive plus jamais à d'autres parents.
Tommy Cataneo de France Bleu, Drôme Ardèche. Un samedi encore marqué par la mobilisation des Gilets jaunes, une mobilisation en baisse avec 5600 manifestants comptabilisés dans tout le pays. Ils étaient plus du double la semaine dernière. Bonsoir Sébastien Sabiron.
Bonsoir.
Quel bilan national tiré de cette 16e journée de mobilisation des Gilets jaunes?
Eh bien d'abord, cette mobilisation en baisse, vous le disiez, selon les premiers chiffres encore partiels du ministère de l'Intérieur. Et puis, le calme relatif des cortèges avec malgré tout quelques contre-exemples. À Nantes, la situation s'est tendue en tout début de manifestation et malgré un dispositif de sécurité considérablement renforcé, 15 personnes interpellées, des affrontements sporadiques à Toulouse, à Lyon également, où environ 2000 manifestants prenaient part à une marche noire. Et puis à Lille, où la presse régionale dénombre environ 1300 gilets jaunes, aujourd'hui quelques échauffourées lorsque certains ont voulu quitter le parcours officiel de ce rassemblement qui se voulait régional et international. À Paris, 28 personnes ont été interpellées. Sur les Champs-Élysées, ce soir, une poignée de manifestants jouent encore au chat et à la souris avec les forces de l'ordre qui les repoussent dans le calme vers les bouches de métro. Les gilets jaunes s'étaient retrouvés en fin de matinée sur les Champs avant que le cortège ne s'élance sur un très long parcours de 12 km jusqu'à Denfert-Rochereau. Une manifestation déclarée sans casse et sans incident notable. Pour ce qui est des revendications, eh bien, pas de changement. Justice fiscale, justice sociale, baisse des taxes et référendum d'initiative citoyenne. Pour cet acte 16, les Gilets jaunes espéraient un regain de mobilisation avant la journée du 16 mars qu'ils espèrent décisive. Elle correspond à la fois à la clôture du grand débat ainsi qu'aux 4 mois de ce mouvement de contestation.
Sébastien Sabiron du service reportage de France Inter. Merci. À Strasbourg, c'est bel et bien un nouvel acte antisémite qui a été perpétré la nuit dernière. Une stèle évoquant l'ancienne synagogue de la ville brûlée par les nazis en 1941 a été renversée. Indignation sur place et condamnation en cascade. Le premier adjoint au maire de Strasbourg, Alain Fontanelle, promet la plus grande fermeté contre les auteurs toujours activement recherchés ce soir.
Je suis à la fois atterré et en colère. Une nouvelle exaction antisémite. En plus, on est sur un lieu de mémoire, c'est celui de la grande synagogue de Strasbourg qui a été rasée par les nazis au début de la Deuxième Guerre mondiale. De s'attaquer à cette mémoire-là, c'est à la fois criminel, c'est évidemment pénalement responsable et c'est d'une bêtise innommable. On va bien sûr, dès les constatations de police effectuées, travailler pour remettre en place cette stèle, pour réparer ces exactions et puis prêter tous les moyens dont la ville dispose aux forces de police pour sécuriser, bien sûr, mais aussi essayer de retrouver au plus vite ceux qui ont fait ça une nouvelle fois. Cette stèle est très lourde. C'est pas un acte qui se fait comme ça. C'est un acte qui doit s'organiser à plusieurs. Et vraiment, il faut retrouver ceux qui ont fait ça.
Alain Fontanelle au micro de Corinne Fugler de France Bleu Alsace. Au Gros du Roi, un homme de 68 ans gravement blessé lors d'un abrivado, un lâcher de taureau encadré par des cavaliers qui avait lieu sur une plage. Le pronostic vital n'est pas engagé. Une autre femme avait été blessée légèrement ce matin. Information de nos confrères de France Bleu Gare-Lozère. Du sport ce samedi avec la 27e journée de Ligue 1 aujourd'hui en football. Le PSG se déplaçait à Caen pour une victoire in extremis 2-1, Cédric Guillot, Stade Malherbe.
La tête sans doute déjà au match de mercredi face à Manchester United pour le Paris Saint-Germain, vainqueur poussif de Caen, pourtant 18e du classement. À leur décharge, les Parisiens n'ont pas été vernis, ils ont touché 4 fois les montants des buts de Brice Samba, la barre transversale pour Kurzawa et Marquinhos et puis 2 poteaux pour André Di Maria. Le Paris Saint-Germain privé ce soir de Neymar, Cavani, Thiago Silva et avec Verratti resté sur le banc, s'est retrouvé mené peu avant l'heure de jeu après un but du Canet Casimir Ninga et c'est inévitable Kylian Mbappé qui a égalisé sur pénalty avant de donner un avantage décisif aux Parisiens à 4 minutes de la fin du match. 24 buts désormais pour Mbappé cette saison en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain compte provisoirement 20 points d'avance sur son dauphin Lille au classement. Quand Cédric Guillou, France Inter.
Un compte rond pour un grand champion, 100e titre pour Roger Federer qui vient de remporter cet après-midi le tournoi de Dubaï. Le Suisse a remporté sa finale contre le grec Tsitsipas en 2-7, 6-4, 6-4. Sans victoire, c'est presque un record, Fabrice Abgral.
Roger Federer n'est que le deuxième joueur de l'histoire à atteindre les 100 titres derrière Jimmy Connors. L'Américain a soulevé 109 trophées entre 1972 et 1989. Connors aura mis 17 ans pour construire son palmarès. Federer, lui, en aura mis 18 pour glaner l'ensemble de ses 100 titres. Le premier, c'était à Milan, le 4 février 2001. À l'époque, Federer n'avait que 19 ans. Aujourd'hui, il en a 37. Alors évidemment, le temps passe, mais l'envie de gagner des trophées est toujours là. Pas sûr toutefois qu'il parvienne à égaler, voire dépasser le record de Connors. Federer d'ailleurs n'en fait pas forcément un objectif, mais le plaisir de jouer est intact et tant qu'il l'aura, le Suisse s'accordera le droit de rêver. En attendant, Roger Federer peut regarder fièrement sa vitrine au trophée. Il a remporté notamment 20 titres du Grand Chelem, 6 Masters et 27 tournois Masters 1000, mais dans ce palmarès il y a des manques. Federer ne s'est jamais imposé à Monte Carlo et à Rome et il n'a jamais remporté le titre olympique en simple. Federer tentera de le conquérir l'année prochaine à Tokyo, à moins que d'ici là, il ne décide de prendre sa retraite.
Ma vie connectée à présent, ce soir connectée à Wikipédia. Un appel à financement participatif vient d'être lancé en partenariat avec les Archives nationales. Objectif, embaucher un Wikipédien en résidence. Bonsoir Christine Siméon.
Bonsoir.
Qu'est-ce donc un Wikipédien en résidence? C'est un Wikipédien à la maison, comme si on était chez soi, dans son salon?
Pas tout à fait. C'est quelqu'un qui vient transmettre les bonnes pratiques de contribution dans la grande encyclopédie en ligne, Wikipédia, dans une institution culturelle. Sur l'ensemble des communautés wikipédiennes dans le monde entier, l'expérience de Wikipédien en résidence existe depuis 2010, mais elle n'a quasiment jamais été mise en œuvre en France, sauf une fois en 2011 au château de Versailles. De par le monde, environ 170 cas de résidence ont été recensés pour l'instant, pour des contrats de quelques heures par semaine ou bien beaucoup plus. Pierre-Yves Baudouin, président de la Wikimedia France, l'association qui soutient les projets comme Wikimedia.
Les institutions culturelles sont un partenaire de longue date de Wikipédia, mais ont quand même besoin d'être accompagnées. Et d'où le but de ces résidences de 6 mois, 1 an. C'est pas du tout pérenne, mais il faut que cette personne en fait forme le personnel de l'institution afin qu'elle devienne autonome après le départ de ce Wikipédia en résidence.
Alors les Archives nationales de France lancent donc un appel à financement pour embaucher pendant 6 mois au moins ou 1 an quelqu'un qui viendra stimuler les agents des archives et leur contribution en ligne. Il viendra les aider à contribuer plus. Car ils le font déjà beaucoup. Ils viennent par exemple de rafraîchir la fiche de Marie-Antoinette sur Wikipédia. Guylain Brunel, chargé des publics aux Archives nationales de France.
On est plus de 450 personnes aux Archives nationales, donc ça fait un réservoir potentiel de contributeurs qu'il faut pouvoir aider. Dans chaque département, dans chaque service qui gère des fonds bien spécifiques, on a un correspondant et on les a formés avec des ateliers d'écriture menés en collaboration avec Wikimedia France.
Le Wikipédien en résidence n'est donc pas un Wikipédien rémunéré pendant que les autres contribuent bénévolement. Il ne fait pas la même chose que ses homologues et cela ne crée pas des Wikipédiens à deux vitesses.
Une nouvelle façon d'améliorer les contributions sur la célèbre encyclopédie en ligne. Merci Christine Siméon. Chronique à retrouver sur franceinter.fr. Vos conditions de circulation ce samedi soir de départ ou de retour de vacances. La journée était classée orange dans les deux sens en Bourgogne et Rhône-Alpes. Soisigbourg, on vous retrouve en direct du PC Mobilité de Radio France. Soisig, un peu moins de trafic ce soir aux abords des stations de ski.
Oui, il reste un peu de monde dans la vallée de la Tarentaise sur la Nationale 90. Quand vous allez vers Bourg-Saint-Maurice et le parc de la Vanoise, comptez 10 minutes de ralentissement. Ça bouchonne un petit peu à la Clusaz aussi, et puis un peu plus au sud, près de l'Alpe d'Huez et des Deux Alpes. Mais vraiment, c'est très léger. Là où, en fait, le gros des bouchons est concentré, c'est vraiment en Bourgogne, sur la 6 pour monter vers Paris. C'est très compliqué entre Beaune et Auxerre. Comptez 23 km de bouchons entre Thorey-sur-Ouche et Aiguilly, et une grosse heure de trajet.
La météo. Avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Le temps, Jean-Michel Golinski.
Demain, en Ordanaxe, Loire, Bas-Rhin, le temps sera médiocre en raison de la pluie plus marquée par séquence à proximité de la Manche et du vent vers 70-80 km à l'heure dans l'intérieur, parfois 100 en fin d'après-midi sur les côtes, notamment du nord Finistère. Dans la partie sud du pays, le bassin méditerranéen va profiter d'un bon ensoleillement, alors que des Charentes aux Pyrénées et du Massif central en allant vers les Alpes et le Jura, le voile nuageux sera souvent très dense, et sur les crêtes des Pyrénées occidentales, le vent de secteur sud sera sensible. Les températures matinales, plus basses au sud que sous le ciel perturbé de la moitié nord, vont afficher partout l'après-midi des valeurs plus élevées qu'aujourd'hui, vers 16 degrés en moyenne dans la partie nord, il fera 18 à 20 près de la Méditerranée et jusqu'à 25 degrés sur la Bigorre et le Béarn.